franceinter.fr.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'honorable monsieur Pepys ou la chronique de Londres au XVIIe siècle.
1er janvier. Voilà où en sont les affaires de l'État. Quant à ma situation personnelle, elle est belle et l'on me croit riche. À la vérité, je suis pauvre. Je n'ai d'autre fortune que mes meubles et mes objets, avec les ressources de mon poste qui sont bien incertaines pour le moment.
Nous sommes en 1660, il a 27 ans et il entame un journal intime qu'il tiendra 9 ans durant, le plus étendu, le plus sincère apparemment aussi, des journaux de l'époque. Dans sa jeunesse, la sympathie de Samuel Pepys était allée à Cromwell, qui avait tenu le haut du pavé après l'exécution du roi Charles Ier. Mais la restauration se profile et Pepys la rejoint opportunément. Il est homme à s'accommoder en tout domaine. Un chrétien de tempérament modéré qui ne manque pas de louer Dieu de sa condition de plus en plus florissante, de sa maison de plus en plus riche. Un galant qui tromperait volontiers sa femme Elisabeth, qu'il aime, mais qui se contente de baisers dérobés aux servantes sous l'escalier. Un ennemi de la prodigalité, mais qui estime néanmoins qu'il faut prendre son plaisir quand on a la santé, la fortune et l'occasion. Bref, un homme d'une énergie peu commune, mais en qui nous pouvons nous reconnaître puisqu'il est d'une vertu moyenne. Un frère donc, et peut-être le seul de son époque dont nous puissions connaître si intimement la vie secrète. Bernard Cotteret, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Grand historien de l'Angleterre et de l'Amérique anglaise, au moins une quarantaine d'ouvrages, le dernier sur Thomas More. Une quarantaine d'ouvrages, mais le journal de Samuel Pepys sur 9 ans, c'est 11 volumes dans l'édition peut-être définitive qui est parue à la fin du XXe siècle en Angleterre.
C'est absolument étonnant, d'autant plus que ce journal n'a pas été publié à l'époque, ni même dans les années qui ont suivi la disparition de Samuel Pepys en 1703, mais il a fallu attendre un siècle pour qu'on le déchiffrât.
On en a une édition en français de bonne qualité grâce à Lafond, la collection bouquins.
Excellente collection.
Et puis maintenant, grâce aux éditions Chamballon, excellentes éditions.
Également.
Nous avons une biographie de Samuel Pepys, signée d'une ancienne rédactrice du Sunday Times, de la rubrique littéraire. Je vous laisse prononcer son
Claire
nom.
Claire Crumlin.
Et cette biographie va bien au-delà de la fin du journal qui intervient en 1669, Samuel Pepys mourra en 1703. Mais venons au commencement. C'était un jeune homme qui avait de la sympathie pour les têtes rondes. Les têtes rondes, c'était les puritains autour de Cromwell.
Absolument. Et la sympathie que Pepys avait pour Cromwell s'explique très simplement par des raisons géographiques. C'est-à-dire que Cromwell et lui venaient de la même région d'Angleterre, l'Est Anglie, ce qu'on appelle en anglais East Anglia, qui est la bosse qui s'avance vers la Hollande de l'autre côté de la mer du Nord.
Mais Cromwell meurt et du vieux vautour est née une pauvre mésange. Dit un chroniqueur, le fils n'est pas capable de tenir le gouvernail du protectorat et la restauration se profile. La restauration va avoir lieu, mais la monarchie restaurée ne va pas retrouver sa position antérieure. Le problème de Pepys, c'est de chercher sa position dans la monarchie restaurée.
Charles II, qui arrive au pouvoir en avril 1660, avait d'extraordinaires conseillers autour de lui et lui avait expliqué qu'il ne fallait pas recommencer, évidemment, les erreurs du passé. Et la première des erreurs du passé, c'était d'essayer de gouverner sans Parlement. Et là, il fait exactement le contraire, Charles II, puisqu'il arrive à la demande du Parlement. Et Samuel Pepys lui-même joue un rôle dans cette demande parce qu'il sert d'intermédiaire entre l'Angleterre et la Hollande et il fait partie des quelques Anglais qui vont chercher Charles II en Hollande. Évidemment, sa promotion s'explique aussi par cela.
La restauration s'accompagne, même si une certaine modération, dites-vous, la caractérise, de procédures de réparation, les trois principaux régicides, dont Cromwell, ceux qui ont décidé donc de l'exécution en 1649 de Charles Ier, sont exhumés de leur tombe. Nous sommes ici dans le journal le 30 janvier, jour anniversaire de l'exécution du roi, mais en 1661.
28 janvier, après dîner dans Fleet Street, chez Mr. Bridgen, pour faire affiler mon épée. Je l'ai accompagné à la brasserie où nous avons parlé de l'exhumation des corps de Cromwell, Ireton et Bradshaw, qui doit avoir lieu aujourd'hui.
Traînés au gibet de leur tombeau à Westminster, ils seront là, pendus et enterrés.
Ne trouvez-vous pas pénible qu'un homme d'un aussi grand courage que Cromwell subisse un pareil déshonneur ?
Si je pensais cela, je ne le dirais pas. Mais vous savez, la pendaison ne leur fera pas grand-chose. Ils sont morts, ils sont bien morts.
L'an dernier, j'ai assisté à celle du major Harrison.
L'un des signataires de l'arrêt de mort de notre Charles Ier.
Non seulement on l'a pendu, mais on l'a aussi écartelé et dépecé. Cependant, le major paraissait d'aussi bonne humeur que peut l'être un homme en pareille circonstance. Quant au peuple, il a poussé des grands cris de joie quand on l'a eu coupé en morceaux et quand on lui a présenté la tête et le cœur. C'était le premier sang versé pour venger le roi.
En fait, le 30 janvier, il n'assiste pas à la scène. Samuel Pepys, ça lui déplaît. Et la tête de Cromwell va rester pendant 25 ans au-dessus de la ville, sans que Pepys ne le mentionne jamais.
Exactement, parce que c'était un usage assez courant de couper en morceaux les régicides. On l'avait fait plusieurs fois au travers de l'histoire. Et avec un bon goût absolument extraordinaire, effectivement, on prenait ces membres qui avaient été enlevés des cadavres et on allait les suspendre dans divers lieux, dont le pont de Londres, London Bridge, évidemment, qui servait aussi à exhiber comme ça les restes des vilains régicides.
Mais ça lui déplaît quand même à Pepys. Mais sa description est contrôlée, comme on dit.
Oui, je pense que c'est pas ce qu'il a trouvé de pire, en fait.
Sa femme assiste, elle, à la procédure d'exhumation le 30 janvier. Je vous laisse prononcer le nom de son protecteur, enfin le nom d'origine de son protecteur qui va lui faire...
Alors
va le faire entrer dans le bureau de la marine.
Alors son protecteur, qui est un cousin aussi, c'est Edward Montagu, dirions-nous en français. Et ce Montagu, devient Lord Sandwich.
Ah bah ça me va.
Lord Sandwich, si je prononce à la française, quelques années plus tard. Et donc c'est un des grands personnages du régime, et ça avait été un des grands personnages déjà de l'ère cromwellienne.
Alors autour de Lord Sandwich, j'ai bien retenu... Il participe comme clerc des actes au bureau de la marine, à toutes les décisions qui concernent l'entretien de la flotte du roi, c'est important, la gestion des chantiers navals, et puis aussi les fournitures, celles qu'on achète ou celles qu'on récupère.
Quand il s'agit du service de Sa Majesté, il n'y a ni jour ni nuit, et je suis prêt, s'il le faut, à travailler le jour du Seigneur, car servir le roi, c'est encore servir Dieu. Oh, j'ai été magnifique.
Mon cher Pepys, les trois navires hollandais capturés la semaine dernière, je les ai visités ce matin. Quel butin, quelle richesse.
C'est inespéré, paraît-il.
Et que contiennent-ils, ces navires?
De tout. Du cuivre, de l'étain, des épices, de la soie. Enfin, énorme, vous dis-je. Mais quelle tentation pour les pillards. Aussi est-il urgent d'aviser.
À quel propos, messieurs?
Vous le savez bien, voyons. Il s'agit d'arrondir la petite part de prise à laquelle nous avons droit, d'ailleurs.
Vous êtes non seulement un bon acheteur, mon cher Pepys, mais aussi un bon vendeur. Et personne ne nous obtiendra des conditions aussi intéressantes que vous. Vous connaissez tant de monde dans le négoce.
Je dois reconnaître, messieurs, que vos arguments ne manquent pas de force.
D'autant plus que cette affaire peut rapporter à chacun de nous au moins un millier de livres.
Ah oui, un millier de livres.
Ah ah. Alors, que mettons à l'abri tout de suite?
Tout d'abord, des épices. Ensuite, des feuilles de cuivre et de l'étain.
Mais ça peut être aussi bien un tonneau d'esturgeon. C'est un extrait du film de Marcel Bluval pour la télévision, L'honorable Mr. Pepys. Ça s'appelle des pots de vin. Je ne sais pas quel mot il utilise dans le journal.
Je crois que c'était un usage fréquent à l'époque, effectivement. Et comme notre notion de service public, en fait, n'existait pas encore au XVIIe siècle, on trouvait tout à fait normal que, dans un certain nombre de situations, dans le fond, on reçoive quelques émoluments. Et en particulier, toutes les opérations des corsaires, généralement, rapportaient non seulement aux corsaires même, mais à leur entourage. Et donc, évidemment, Pepys étant dans un secteur particulièrement sensible à l'amirauté, il est évident que ça ne pouvait pas ne pas lui rapporter aussi un peu.
Comment dit sa biographe chez Champvallon, je vous laisse prononcer son nom,
Crumlin.
Elle explique qu'il n'y a ni concours d'admission, ni règles de promotion, ni régime de retraite, que ça ne veut pas dire que ne se dessine pas la haute fonction publique, parce qu'il exerce son métier avec beaucoup de sérieux.
Avec beaucoup de rigueur. Également.
Dès l'aube jusqu'à minuit, enfin avec des intermèdes dans la journée, c'est pas une vie de bureau routinière, avec beaucoup plus de sérieux que le roi en tout cas.
Il ne trouve pas que Charles II ait été très sérieux. D'ailleurs, on voit dans son journal une certaine insatisfaction se dessiner par rapport au roi, qui n'est pas tellement une insatisfaction politique, qui est l'homme, effectivement, qui trouve, dans le fond, très décevant. Et je crois qu'il avait raison.
Parce que l'homme, je parle du roi, va au théâtre une ou deux fois par semaine, mais il ne fait pas grand-chose.
Il ne faisait pas grand-chose tout court. Oui.
Tandis que Samuel et Élisabeth...
Ah,
sa
lui,
femme, vont au théâtre
absolument.
Aussi, mais en travaillant avant et après. Le théâtre, l'époque puritaine s'éloigne, mais en Arcoteray, ça se marque notamment par la multiplicité des spectacles de théâtre.
Ce qui est quand même fou quand on prend l'Angleterre dans la durée, c'est que ce pays qui a connu des théâtres absolument extraordinaires à la période élisabéthaine et au début du XVIIe siècle, sous Jacques Ier, eh bien d'un seul coup, à partir des années 1640, on ferme les théâtres à Londres. Les puritains ne supportent pas effectivement le théâtre, ne supportent pas le spectacle, et les théâtres n'ouvrent à nouveau que lors de la Restauration, c'est-à-dire à partir de 1660. Et là, il y a une grande transformation dans le théâtre, c'est que autrefois, pendant la période élisabéthaine, en tout cas, les rôles féminins étaient tenus par de jeunes garçons. Et à partir de 1660, on voit des femmes s'exhiber sur la scène. Alors évidemment, pour la mentalité puritaine, c'est particulièrement choquant. Et il est vrai que ce milieu d'actrice était, paraît-il, assez frivole, et que Charles II lui-même avait une maîtresse parmi ses comédiennes.
On joue encore Shakespeare, mais on joue beaucoup de comédies. On va au théâtre pour rire d'abord, non ?
On aime d'abord la comédie. Et Shakespeare, on retrouve Shakespeare, mais ce n'est pas véritablement Shakespeare qui est mis en valeur par la période de la Restauration.
Alors, au théâtre, très fréquemment, et puis, chez lui, cours de danse.
Ça aussi, c'était interdit, la danse.
À l'époque puritaine.
Bien sûr. Oui, enfin, c'était mal vu.
C'est plus un péché, maintenant.
Il ne pouvait y avoir que des danses collectives. Il ne fallait pas que des couples dansent.
Et puis, cours de musique avec un maître de musique pour la société d'amateurs autour de Pepys, qui va lui-même se mettre à composer. Mais d'abord, la danse.
4 mai. Levé tôt. Bientôt est arrivé Mr. Pemberton, le maître à danser.
1, 2, 3, amenez. 1, 2, 3, ramenez. 2 pas à droite. 2 pas à gauche. Virevolte. Ramenez. Oui, c'est parfait.
À la vérité, je crois la danse un talent fort utile pour un honnête homme et dont j'aurai parfois l'occasion de me servir. 13 janvier 1662. Mr. Birkenshaw, que je n'avais pas vu depuis longtemps, a passé un grand moment avec moi à parler de musique. Et j'ai résolu de prendre avec lui des leçons de composition. Je dois commencer demain. Et il me donne de grands espoirs d'y parvenir bientôt.
Beauty, retire, thou dost my pity move. Believe my pity, and then trust my love. At first I thought her by our prophet sent, as a reward for valor's toils, more worth than all my father's spoils. But now she is become my punishment. But thou art just, O power divine, with new and painful arts of studied war, I break the hearts of half the world, and she breaks mine.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous sommes en 1665 maintenant, très précisément, en compagnie de Bernard Cottret, autour du journal de
Bernard Cottret qui était déjà là.
Pips. Bien sûr, puisque vous êtes un témoin vigilant de l'histoire de l'Angleterre et de l'Amérique coloniale anglaise. Je dis 1665 parce que notre héros, Samuel Pepys, clerc des actes au bureau de la marine, compose cette chanson en 1665 autour d'une pièce que vous avez vue dès sa création, Le siège de Rhodes.
Exactement, oui.
De William Davenant.
Oui, qui avait été écrit en fait sous Cromwell.
Ben vous voyez, vous avez une mémoire reprise. De cheval.
Absolument, j'étais là aussi.
Alors il jouait, je ne sais pas si c'est votre cas, je parle de Pepys là, de la viole de gambe, du luth, du violon, du théorbe. Il avait acheté un flageolet, une épinette, une flûte à bec, et il hésitait devant l'achat d'une harpe. C'est extraordinaire.
C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, effectivement, de voir combien cette période de la Restauration s'est accompagnée d'un intérêt accru pour les arts, et pour les sciences et les arts, j'allais dire. Et parmi les arts, évidemment, la musique. Ceci dit, les grandes productions musicales sont ultérieures. Il faut attendre Henry Purcell pour avoir un très grand musicien anglais, sans doute le plus grand musicien anglais de tous les temps, mais c'est 20 ans plus tard.
Mais la curiosité et le goût du spectacle de Pepys étaient tels qu'il considérait, mais beaucoup de ses contemporains aussi, les sermons dans les églises le dimanche comme un autre spectacle.
Absolument, et le fait même d'aller à l'église, c'était aller au spectacle. Non pas évidemment que dans les églises de la Restauration, il y a eu des formes particulièrement spectaculaires de culte, ça je crois qu'il faut bien s'en souvenir, mais ceci dit, c'est vrai que c'était un des hauts lieux de la sociabilité et que le sermon était un genre qui couvrait beaucoup de choses auxquelles nous ne pensons pas, comme par exemple les sciences naturelles. Il y a un apprentissage de la science qui se fait aussi par le biais de certaines prédications qui ont lieu le dimanche, en particulier le dimanche après-midi, parce que c'était sermon le matin, sermon l'après-midi, très souvent.
Mais il y a aussi les formes naturelles des femmes, parce que vous parlez des charmes des actrices de la nature, sur la scène,
oui.
Mais les dévotes
peuvent
être intéressantes dans les nefs.
Il y a de jolies dévotes, comme chacun sait.
Oui. Et après, le dimanche, le jour du Seigneur, il note toujours dans son journal, le jour du Seigneur.
Hein. Oui, bien sûr, oui.
Il va à la taverne.
Oui, bah bien sûr. Ça, c'est moins bien. Mais enfin, c'était un usage courant, là aussi.
Et c'est extraordinaire pour quelqu'un qui a vécu dans sa jeunesse l'époque puritaine, parce qu'à chaque fois qu'il va à la taverne, il doit se dire « Mais bon sang, j'aurais jamais osé faire ça il y a 10 ans ».
Ben, la période puritaine, on ne pouvait pas aller à la taverne le dimanche. On pouvait y aller le reste du temps, mais le dimanche, évidemment, c'était beaucoup plus difficile. Mais avec la Restauration, oui, on revient quand même à un certain nombre d'usages antérieurs. Et le fait même de se réjouir et de s'esbaudir le dimanche, eh bien, ça devient tout à fait licite. Alors qu'il y avait cette idée dans la culture puritaine que le dimanche était consacré presque exclusivement au Seigneur. Donc on dit le jour du Seigneur, qui est une expression qu'on peut encore utiliser à l'heure actuelle pour dire le dimanche, en fait, dans certains milieux, the Lord's Day, et il est évident que ça montre assez que tout le dimanche, on devait ne se préoccuper que des Saintes Écritures et aller au sermon le matin et le soir.
Le tour des églises, mais donc le tour du dauphin, du soleil, du cygne, apparaissent comme ça le nom.
Oui,
les noms de tavernes.
Des tavernes,
de Londres.
Oui.
Londres fait combien d'habitants d'ailleurs?
Alors Londres est une ville qui doit avoir 150 000 habitants à ce moment-là.
Et l'agglomération que parcourt Pepys.
Beaucoup plus large.
Et grande aussi, parce qu'il ne confond pas Londres avec la seule cité et le quartier royal dans lequel il habite. Dites-moi, avec toutes ces promenades, il va sur l'eau aussi. Ses séjours dans les tavernes, avec tous ces relâchements, il va y avoir des calamités. Alors la première calamité, qui est longuement décrite dans le journal,
c'est
nous sommes, je vous l'ai dit, en 1665. Souvenez-vous de la peste de 1665.
Oui. Oui. Qui est la dernière grande peste qui touche l'Angleterre, il n'y a plus eu de peste après. Et qui a été évidemment spectaculaire parce qu'on a vu quantité de gens mourir. On ne savait pas lutter adéquatement contre la peste à ce moment-là. Et ce que l'on faisait de mieux, c'était de quitter la ville, de quitter dans le fond cet environnement malsain. Mais on ne savait pas véritablement lutter contre le fléau lui-même.
Mais lui, il est assez courageux, ou du moins réaliste. Il considère la mort comme une possibilité toujours proche. Et peut manifester aussi une certaine indifférence aux caprices de la fortune.
Oui, ce qui est très frappant chez lui, c'est dans son journal, ce qui rend ce journal tellement attachant, c'est aussi l'attention qu'il porte au corps, à commencer par son corps lui-même, qui est un corps malade, puisqu'il a souffert de la maladie de la pierre. On lui a extrait une pierre quand il était beaucoup plus jeune. Donc un calcul, ce que nous appellerions un calcul. Et cette attention au corps est très forte chez Pepys. Et je crois que c'est aussi un âge, en fait, qui est préoccupé par la médecine. Il y a un développement de la médecine dans la seconde moitié du XVIIe siècle qui est absolument spectaculaire. Également.
Mais tout ça ne développe pas chez lui la peur, mais un certain sang-froid qu'il va manifester l'année suivante, autre calamité, 1666, une nuit à 3 heures.
2 septembre, jour du Seigneur.
Monsieur, monsieur, réveillez-vous. On voit un grand incendie dans la cité.
Je me suis apprêté et rendu à la tour. De là-haut, j'ai vu les maisons de ce côté du pont, toutes en flammes, et un immense incendie s'étendant au-delà.
Ça a commencé ce matin, chez le boulanger du roi dans Pudding Lane. L'église Saint-Magnus est déjà complètement détruite.
Là, j'ai assisté à des scènes lamentables. Les gens tentaient de sauver leurs biens, les lançaient sur les quais ou les entassaient dans des barques. De pauvres pigeons ne se décidant pas à quitter leur maison, voltaient autour des fenêtres et des balcons jusqu'au moment où ils tombaient, les ailes roussies. Au bout d'une heure, j'ai vu que le feu faisait rage dans toutes les directions. Le vent très violent poussait l'incendie vers la cité. Les gens étaient comme fous. Ils surgissaient au-dessus des clochers, entre les maisons et les églises. Aussi loin que le regard s'étendait sur la colline de la cité, une horrible flamme, maléfique, sanglante. L'incendie ne formait plus qu'une immense arche de feu. Les églises, les maisons, tout flambait à la fois. Ah, l'affreux bruit que faisaient les flammes et le craquement des maisons qui s'écroulaient.
Maintenant, nous sommes dans une adaptation du journal de Pepys, France Culture 2003, signé Catherine Lemire, Claude Mortet et Jean-Philippe Navarre. Il fait preuve de sang-froid parce qu'il court chez le roi, c'est le premier à l'informer de l'incendie, et il lui donne les indications qui sont
bonnes.
Qui sont pleines de bon sens. Oui, oui.
Oui, oui.
Il faut abattre les maisons.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'évidemment, il y avait un grand degré de familiarité avec le roi, parce qu'on le voit arriver chez le roi en pleine nuit, en prenant le bateau sur la Tamise, puisque lui était dans Londres, et donc dans la cité, et il prend le bateau, et il remonte jusqu'à Westminster, où se trouve le roi, et qu'il s'adresse directement à lui. Donc, il le connaissait bien, et pour cause, et qu'il lui dit la meilleure chose à faire, sire, c'est d'abattre un certain nombre de maisons pour éviter l'extension des flammes. Et en réalité, on a abattu les maisons, mais ça n'a pas suffi.
Il y a des notations assez curieuses. Les pigeons aux ailes roussies qui tombent de leurs fenêtres, ou le chat là, qui est coincé dans la cheminée. C'est passablement roussi aussi. Oui. Et c'est là qu'on voit le talent du reporter.
Oui, je crois que c'est un des plus beaux passages de ce journal, un des plus intéressants. C'est la description du grand feu de Londres, qui a été absolument ahurissante, puisque la ville a disparu pratiquement. En particulier, toutes les églises ont été détruites, et on a tout reconstruit après.
Mais ces églises ont été détruites parce qu'elles avaient été confisquées aux catholiques. C'est un complot des papistes, cet incendie.
Alors, effectivement, la première interprétation qui est donnée après le feu lui-même, c'est de dire encore, c'est encore la faute des papistes. Et il y a un anticatholicisme qui se renforce du fait même de l'incendie parce qu'il y a des rumeurs, vous savez toujours le phénomène de la rumeur. On a vu des papistes qui ont flâné à l'endroit d'où est parti l'incendie. Évidemment, c'est totalement faux, enfin, je pense personnellement, mais ça montre bien cette espèce de climat très, très inflammable, j'allais dire, des imaginations à ce moment-là.
La maison de Pepys ne sera pas préservée plus tard par un autre incendie, mais l'est en 1666. Elle est installée dans le quartier royal. C'est une maison emboîtée
absolument,
à la maison du roi. Et maintenant, passons du reporter au diariste intime. Il raconte comment cette maison est en travaux perpétuels, s'enrichit, s'embellit, et il raconte le climat de la maison aussi.
Oui, chez Pepys, ce qui était étonnant, c'est cette espèce de découverte, j'allais dire, de l'intime, d'autant plus surprenante que ce livre qu'il écrit n'est pas destiné à la publication. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi il écrit pendant 10 ans son journal, et qu'effectivement, il parle de tout, il parle de son corps, ça nous l'avons déjà vu, il parle aussi du corps de son épouse et des difficultés qu'il a à avoir des relations sexuelles avec elle parce que simplement elle a un kyste mal placé, c'est ce qu'il écrit. Évidemment, c'était un épouse. une époque où la gynécologie n'était pas du tout aussi avancée qu'à l'heure actuelle. Et il y a un véritable problème du couple qu'il décrit assez bien. Ce qui n'empêche pas, évidemment, ou ce qui l'amène à aller chercher un petit peu ailleurs.
Oui, les causes de disharmonie dans le couple sont assez nombreuses. Scènes de ménage reconstituées par France Culture chez les Pips.
Si je suis parti de rien, j'espère devenir membre du Parlement. Aussi, je ne dois pas manquer une occasion de me faire connaître, de me montrer, même à la cour.
Et c'est pour vous montrer à la cour que vous vous êtes commandé cette perruque.
Oui, car les grands n'accordent jamais leur confiance à un homme vêtu d'une manière quelconque. Du choix d'une perruque peut dépendre toute une carrière. Et c'est pourquoi j'ai commandé celle-ci. Vous me comprenez, Elisabeth?
Oui, bien sûr, voyons. Et vous vous êtes également commandé un manteau court.
Oui, les longs sont passés de mode.
Oui, ainsi qu'un chapeau.
Chez Holden, oui.
Et une paire de bottes à revers de soie.
Bah, j'ai pensé qu'elle ne me serait pas inutile.
Est-ce tout?
Bah, oui, mais vous-même, n'êtes-vous pas élégante?
Moi, élégante?
Oh. Voyons, que vous faut-il?
Pour les choses qui ne vous touchent pas directement ou qui vous touchent trop près, vous faites facilement la sourde oreille.
Et puisque je vous dis que ma bourse vous est ouverte.
Je voudrais une robe nouvelle pour l'été.
Accordée?
Mais une belle, vous savez. Ah, une très belle, avec une garniture de dentelle.
Avec de la dentelle, enfin, une petite dentelle. Et quelles dépenses envisagez-vous?
Ouvrez-moi un crédit de 20 livres.
20 livres?
Oh, regardez-moi la dépense. Quand il s'agit d'aller traîner dans les tavernes en mauvaise compagnie.
Voyons, Elisabeth, calmez-vous.
On vous a encore vu cinq cloches hier et vous n'étiez pas seule.
Mais m'est-il défendu d'aller boire une pinte matinale avec un vieil ami?
Oui, seulement malheureusement, il était 6h du soir. Il paraît que ce vieil ami était une femme.
Oh, ma chère, alors si maintenant vous écoutez les mauvaises langues, nous n'en avons pas fini.
Bon, quand il embrasse une servante et que sa femme l'observe, quand il raconte qu'il fait la grasse matinée avec sa femme et que son contentement est grand, pourquoi vous méfiez-vous, Bernard Cottret? Il est sincère.
Alors, ça, c'est le problème, évidemment, du journal intime, qui a eu des scènes de ménage permanentes. Oui, ça, on veut bien le croire qu'en tant que lecteur de son journal. Ceci dit, toutes ces aventures galantes, moi, je demande à voir, je ne sais pas. Il faut se méfier, à mon avis, je crois, des autobiographies quand il s'agit, effectivement, des récits de conquête. Mais je n'en sais pas plus et je n'en dirai pas plus. De toute
C'était
façon,
un peu codé quand il parlait sexe?
Ben j'imagine, oui. J'imagine.
Et c'était sténographié le plus souvent?
Alors, tout est sténographié. Il y a une autre chose qui est très bien notée par Madame Crumbelin.
Sa biographie de Samuel Pepys, chez Champvallon.
C'est que quand il parle de les choses cabreuses, il est dit dans une autre langue. Et il se trouve que cette autre langue est le plus souvent le français, voire un peu d'espagnol.
Ça, on
pour
va
pimenter
pas,
tout cela.
On ne va pas redire ça parce que je ne saurais pas le prononcer aussi bien que vous. Sa femme aussi est un peu papiste. Elle mourra jeune, à 29 ans, peu après l'achèvement du journal.
Elle a des origines françaises. Hein. Sa famille s'appelait Saint-Michel.
On l'accusera lui aussi d'être papiste et sa fortune politique connaîtra des hauts et des bas. Mais il va vivre jusqu'en 1703, un moment parlementaire. Et ce qui est intéressant, c'est l'aspect intellectuel aussi de Samuel Pepys.
Oui, puisqu'il arrive à être président de la Royal Society, qui est vraiment le haut lieu du savoir dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Et il faut rappeler que parmi les membres les plus honorés, les plus honorables de la digne société, on trouve quand même Sir Isaac, auteur des Principia.
Et c'est pendant qu'il est président de la société que les Principia sont écrits, publiés avec l'imprimature de Samuel Pepys.
Exactement.
Dont la bibliothèque était si considérable qu'elle a fait l'admiration de beaucoup jusqu'à la fin de sa vie.
Elle existe toujours. Elle est conservée à Cambridge, dans son collège. Alors, nom imprononçable, pardonnez-moi, Magdalen, qui s'écrit Magdalen.
Merci à vous, Bernard Cottret. Le journal de Samuel Pepys, c'est en français. Elle est correcte, l'édition.
Tout à fait intéressante.
Chez Bouquin Lafond. Et puis vos derniers livres qui sont corrects, non?
J'espère.
Thomas More, c'est aux éditions
Talendier.
Et on attend avec Madame Cottret des publications communes.
À venir.
Vous faites un ménage d'historien tout à fait harmonieux
tout à et fait.
Exemplaire. Je peux faire une petite annonce puisque vous me laissez un peu de temps. Lundi 19, nous continuons au Vieux Colombier avec des comédiens du français. Notre tradition de restitution de débats parlementaires, notamment le débat de 85 entre Clémenceau et Jules Ferry. Donc Vieux Colombier, lundi 19, 20h, avec Michel Favori, Christian Blanc, Michel Vullermoz et Didier Sandre. Un numéro de téléphone qu'on peut appeler aux heures ouvrables. Ils travaillaient de 0 heure, de 4 heures à 0 heure. Puis c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Là,
partout. Ouais. 01 44 39 87 00. 01 44 39 87 00. L'émission était préparée par Frédéric Martin et Ninka Negulescu, avec à la technique Elisabeth Collet, à la réalisation Marie Casanova et préparation aussi Virginie Le Duo.